Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13h à 14h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
Nous avions fait en septembre une petite rubrique et qui vous a plu à propos de la grève de la moustache de 1907, grève construite et menée par la jeune CGT et particulièrement bien suivie par les garçons, serveurs et domestiques afin d'obtenir les améliorations de leurs conditions sociales mais aussi d'imposer à travers cette lutte sociale une affirmation de leur liberté à disposer de leur corps. Depuis la loi du 25 mai 1864, la grève des travailleurs est tolérée et n'est plus considérée comme un délit. Au début de l'année 1905, il en est une qui sera importante par sa longueur, celle des sabotiers de Bourg-en-Bresse, qui durera 2 mois, plus exactement 77 jours. On y reviendra dans une autre chronique. Aujourd'hui, on parlera de la grève des porcelainiers d'avril 1905 à Limoges. Elle aurait pu et dû figurer dans notre ouvrage sur les révoltes populaires en Aquitaine, du Moyen-Âge à nos jours, de par sa force, sa durée et la motivation populaire autour de ce conflit qui ne manquait pas d'originalité et de modernité.
Républicain, socialiste, compagnon radical, ultra, révolutionnaire, anarchiste, etc., etc. Aussi je vais dans tous les métingues, jamais je ne rate une réunion. Et je passe mon temps chez les manzingues, où se compresse la révolution.
La ville est le lieu de violentes émeutes, suite à une grève déclenchée par les ouvriers porcelainiers des manufactures de la ville. À l'origine de l'affaire, un directeur d'atelier accusé de violences sexuelles sur des ouvrières et couvert par son patron d'origine américaine, Theodore Haviland, bien que d'origine religieuse, quaker, et surtout préoccupé avant tout de paix sociale. On désignait le viol par l'expression « grief de nature spéciale et délicate », perçu dans cette affaire comme un retour du droit de cuissage par les ouvrières et qui sera le facteur déclenchant de ces émeutes. C'était plus d'un siècle avant MeToo.
À l'époque, le péril révolutionnaire est considéré comme une menace réelle par la classe politique conservatrice. La République est installée, mais déstabilisée par les lois qu'elle promulgue, la même année sur la séparation de l'Église et de l'État, avec les frondes organisées par les catholiques. Le 27 avril 1905, le journal conservateur Le Matin prend parti contre Théodore Haviland, directeur d'usine de porcelaine à Limoges, pour avoir soutenu son directeur, chef d'atelier, M. Penaud, impliqué dans une affaire d'abus sexuels.
C'est vrai que je comprends pas grand-chose à tout ce qu'ils disent les orateurs, mais je sais qu'ils parlent pour la bonne cause et qu'ils tapent sur les exploiteurs, pourvu qu'on chine le ministère, qu'on engueule ton mal et ton tort, et qu'on parle de tout foutre par terre, j'applaudis d'achat et de tort.
Livrer au chef la chair des femmes et des filles. Ce droit fait-il partie de l'autorité patronale dont M. Haviland s'est montré si jaloux et l'avait-il délégué à son contremaître ? Fallait-il que tout le patronat se solidarisât pour couvrir de son autorité la résurrection des mœurs légendaires attribuées aux seigneurs féodaux ? M. Haviland et les patrons qui ont uni leur résistance à la sienne ont si bien fait que la responsabilité des abominables désordres de Limoges est retombé sur eux et que le rétablissement de l'ordre a ressemblé à une défaite patronale. Que ce triste exemple serve de leçon aux autres. Dans les revendications ouvrières, il y a un mélange de justice et de violence, de droits humains et d'instincts sauvages. Il appartient au bon patron de distinguer les uns des autres et de retirer toute cause légitime à la guerre sociale. Les mauvais patrons, infatués d'une autorité dont ils abusent, servent plus efficacement la cause de la Révolution que les pires meneurs. Henri Déhou, L'orgueil homicide, Le Matin, 27 avril 1905.
C'est d'une simplicité biblique, d'abord faut plus de gouvernement, puis faut plus non plus de république, plus de sénat et plus de parlement, plus de salaud qui vit à sa guise, pendant que nous on un mal de chien, plus de loi, plus d'armée, plus d'église, faut plus de tout ça, faut plus de rien. Alors c'est nous qui sera les maîtres, c'est nous qui fera ce que nous voudrons. Il y aura plus de chef, plus de contremaître, plus de directeur et plus de patron. Mais est-ce qu'on pourra tirer sa flemme? On fera tous les jours le lundi. Oui, mais s'il y a plus de la transpême, qui fera la payotte samedi?
La révolte est telle que la presse ira jusqu'à parler de guerre civile. Limoges, c'est, entre guillemets, la ville rouge. Capitale révolutionnaire ou la Rome du socialisme. Si la couleur évoque celle de ses fours à porcelaine, le surnom fait surtout référence au très fort ancrage à gauche de la capitale du Limousin. Le mouvement ouvrier n'a en effet cessé de s'y développer tout au long du XIXe siècle. On parlera à son sujet de Rome du socialisme, comme je le disais un peu plus haut. Et cela jusqu'à culminer lors de la révolte de 1905. Le saviez-vous ? La CGT s'est créée à Limoges. Le congrès constitutif de la Confédération Générale du Travail, CGT, y est organisé du 23 au 28 septembre 1895, 10 ans avant les émeutes. Les principaux piliers en sont la Fédération du Livre, celle des Cheminots et la Fédération des Bourses du Travail. En 1895, à la veille du congrès constitutif, des grèves s'organisent déjà, dont celle des corsetières. En juin, les 105 ouvrières de la maison Clément, à Limoges, contestent les méthodes de leur direction. Elles leur imposent en effet la prière à genoux à leur arrivée à l'usine sous peine de sanction. La grève dure 108 jours. Plusieurs corsetières seront invitées à l'ouverture du congrès constitutif de la CGT le 21 septembre.
C'était hier, samedi jour de paye, et le soleil se levait sur nos fronts. J'avais déjà vidé plus d'une bouteille, si bien que je m'avais jamais trouvé si rond. V'là la bourgeoise qui remplit devant le zinc, feignant qu'elle dit, t'as donc lâché le turbin. Oui que je réponds, car je vais au métingue, au grand métingue du métropolitain. Oui que je réponds, car je fais au métingue, au grand métingue du métropolitain.
Revenons en 1905. Le 27 mars, trois peintres sur porcelaine de l'usine Havilland sont renvoyés puis réintégrés. Ils s'étaient plaints du droit de cuissage exigé par Penaud, un directeur d'atelier, sur les ouvrières. Le patron avait défendu l'accusé. La grève éclate dans plusieurs entreprises de la ville. Issus de secteurs différents, porcelaine, chaussures, imprimerie, les ouvriers limousins s'unissent pour protester contre les pouvoirs autoritaires des contremaîtres, ces derniers cristallisant la colère des grévistes. Ils s'insurgent aussi contre les bas salaires.
Les citoyens, dans un élan sublime, étaient venus, guidés par la raison. À la porte, on donnait 25 centimes pour soutenir les grèves de Vierzon. Bref, à part quatre municipaux qui schlinguent et trois cerveaux déguisés en Pékin, j'ai jamais vu de plus chouette métingue que le métingue du métropolitain. J'ai jamais vu de plus chouette métingue que le métingue du métropolitain.
Le journal La France écrit le 4 avril.
L'industrie limousine est en pleine crise. Chaque jour, une grève nouvelle éclate. À l'usine de porcelaine Théodore Havilland, les peintres ont quitté le travail. La fabrique de chaussures Fougerat est fermée depuis un mois. Les ouvriers de la fabrique de chaussures Lecointe ont abandonné leurs ateliers. Les manifestations se succèdent. Des groupes nombreux chantent l'International et des refrains révolutionnaires. Le 5 avril, les patrons porcelainiers décident le lock-out. Les usines sont fermées et les ouvriers renvoyés. 13 000 personnes se retrouvent au chômage. Le ton monte et les ouvriers manifestent en masse, formant des cortèges à travers toute la ville, tandis que la mairie radicale-socialiste Émile Labussière tente de concilier les partis.
Alors l'envoyé spécial du journal Le Matin raconte.
Les patrons se sont inquiétés. Ils ont compris le danger de ces grèves partielles, dont la solidarité ouvrière assurait toujours la réussite. Les ouvriers de corporations qui n'ont point de motif d'abandonner le travail, soutenant pécuniairement les camarades d'une autre corporation en grève. À la solidarité ouvrière, ils ont opposé la solidarité patronale.
Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur maintes effrois, emblème éclatant du courage, toujours il fit pâlir les rois.
Alors, le 15 avril, un millier de manifestants envahit les usines Havilland. L'une, celle qui s'appelle Charles Havilland, avenue Garibaldi, l'autre, Théodore de Havilland, place des Tabacs. Une bombe explose devant le domicile d'un directeur. L'automobile de Théodore Havilland est incendiée. Les grévistes remplacent le drapeau américain par le drapeau rouge qui flotte sur ces usines. Rappelons que ces deux patrons sont américains, fils du fondateur David Havilland, 1814-1879, qui s'est installé à Limoges et crée en 1842 sa manufacture. D'ailleurs, Olivia de Havilland, la plus française des actrices américaines, comme le disait Cinémonde à l'époque, Olivia, qui fut la Marianne, la compagne d'Errol Flynn dans Robin des Bois, est de la même famille. Le maire radical socialiste, Émile Labussière, impuissant, alors entre parenthèses je mets ça volontairement ou pas, est dessaisi par le préfet qui fait intervenir l'infanterie et les chasseurs à cheval. Des barricades sont dressées, des armureries sont pillées, des arrestations ont lieu. Tout Limoges est dans la rue, y compris les femmes et les enfants. La presse nationale ne parle plus que des manifestations. Certains journaux s'effraient, l'Union nationale qui parle de la, entre guillemets, bande de Limoges, ou le journal d'extrême droite, La Libre Parole, qui titre, entre guillemets, la révolution à Limoges. Le Matin ira même jusqu'à parler de, toujours entre guillemets, guerre civile. Dans son édito du 16 avril, La Lanterne défend les ouvriers.
Histoire de voir, histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h. Ou en différé sur laclédesondes.fr.
Les ouvriers de Limoges luttent pour quelque chose de plus sacré que leurs intérêts économiques. Ils luttent pour les droits les plus incontestables de l'homme et du citoyen. En leur payant un salaire sur lequel ils prélèvent d'ailleurs un bénéfice exorbitant, le patron acquiert le droit de traiter ses ouvriers comme des bêtes de somme. Pas de justice, pas d'égard. Le maître ou son valet peuvent tout se permettre. Ils peuvent abuser de leurs autorités pour violenter la conscience des ouvriers. Pour offenser leur dignité d'homme, ils peuvent user de brutalité et d'arbitraire, imposer au personnel de l'usine leurs caprices et leurs fantaisies et congédier qui leur déplaît.
Le 17 avril, un cortège formé par la CGT se rend à la préfecture pour réclamer la libération des grévistes emprisonnés. Suite au refus du préfet, les émeutiers enfoncent les portes de la prison départementale sur la place du Champ de Foire et défoncent l'entrée. Le général Plazanet fait alors charger les dragons. La foule se réfugie dans le jardin d'Orsay, des jets de pierre ont lieu, les fantassins ouvrent le feu. Camille Vardel, un ouvrier de 22 ans, est tué. De nombreux autres ouvriers sont blessés. Le lendemain de massacre, titre L'Humanité du 19 avril.
La répression s'est affirmée d'une façon sauvage. Il fallait que cette ville si profondément émue, si douloureusement éprouvée déjà par la misère, eût aussi ses deuils, qu'aux larmes d'angoisse vinssent se joindre les larmes de souffrance. Le prétexte fut facile à trouver.
Les funérailles de Camille Vardel sont suivies par des dizaines de milliers de personnes. Jean Jaurès prononce un discours à l'Assemblée nationale dans lequel il prend fait et cause pour les grévistes et rappelle les faits et l'origine du mouvement social, intervention publiée dans l'Humanité.
Comment ? Le préfet savait que cette grève avait un caractère singulier, qu'elle n'avait pour cause ni une revendication de salaire, ni la durée des heures de travail. Et cela a suffi au préfet pour dire que la grève ne procède que du caprice et de la fantaisie. Il y avait pourtant une question de dignité morale en jeu. Et ce pays serait singulièrement abaissé si la classe ouvrière, comme les autres classes, n'avait pas conscience de cette dignité.
Le travail reprendra dans la porcelaine le 21 avril, après conclusion d'un accord entre patrons et ouvriers. Le contremaître Penaud est renvoyé. Les grévistes sont réembauchés, mais les salaires ne sont pas augmentés. Le mouvement se poursuivra un temps dans d'autres secteurs, comme à la couperie de poils de lapin, si, ça ne s'invente pas, celle qui s'appelle Beaulieu, rue d'Auzette, pour les Limougeaux qui nous écoutent. Les ouvriers bloquent l'usine et son patron. Le mouvement s'éteindra. La République de l'ordre aura une fois de plus défait la République sociale. En punition, les festivités du 14 juillet de cette année, défilés et bals populaires inclus, seront interdits.
Allons, fils de la République, le jour du vote est arrivé. Contre nous de la noire clique, l'oriflamme ignoble est levée. L'oriflamme ignoble est levée. Entendez-vous tous ces infâmes croasser leur stupide chant? Ils voudraient encore les brigands salir nos enfants et nos femmes. Aux urnes, citoyens, contre les cléricaux, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux.
Histoire de voir, histoire au pluriel, en direct tous les mardis de 13h à 14h, ou en différé sur laclédesondes.fr.